C'est l'Artichaut.
Artichaut, le moment où on parle d'art. L'émission que vous retrouvez sur le 101.7. C'est deux rendez-vous par mois.
Pourquoi c'est connu ?
Bonjour et bienvenue dans notre nouvelle émission l'Artichaut, où une artiste un peu folle vient parler des tableaux qui ont fait l'actualité du 19e et du 20e siècle avec Malo.
Yes, merci Carotte d'être ici. On va parler d'art, on va parler de plein d'art avec des points de vue, ce que ça soulève. Une belle émission culturelle et artistique qu'on propose aux auditeurs, auditrices du 101.7.
Comme vous en avez de la chance. L'Artichaut, le fabuleux destin des œuvres du 19e et du 20e siècle.
Avec Carotte.
Dans votre assiette, l'Artichaut à la carotte, c'est très bon, sauce malo, c'est délicieux. On va parler d'art, mais c'est un artiste qui va vous parler d'art. Hein. C'est pas un critique ou un auteur, un écrivain, je ne sais pas. Alors, aujourd'hui, quelle est l'œuvre du jour, Malo ? Œuvre imposée, sais-je la connaître ?
Connais-tu Jean-François Millet ?
Ouais, Jean-François Millet. Ben, en fait, je le connais comme grand inspirateur... pas grand aspirateur, mais grand inspirateur Van Gogh, par exemple, qui a repris, Picasso, qui a repris. C'est les scènes paysannes, les laboureurs, les semeurs, avec des clairs obscurs et des soleils levants ou des soleils couchants, le dur labeur du paysan et de la paysannerie. Et je sais que c'est pour l'intensité et la force... à la fois mentale et la robustesse des corps et la foi dans Dieu et dans la terre et le dur labeur, voilà, de la paysannerie française. Donc je pense que c'est pour ça qu'on connaît Millet.
Eh ben, on peut en parler un petit peu du coup de cette œuvre-là, comme ça après tu peux aussi rebondir un petit peu sur ce qui est dit sur notre outil de travail qu'on utilise pour cette émission. Donc ça c'est un tableau Huile sur toile, donc 1857-1859. Le dernier épisode, on avait parlé d'une œuvre qui avait mis plus d'un an à naître. Et là, on est sur presque 2 ans de travail. C'est ça, hein, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps en fait pour faire une belle œuvre.
Ah bah ça peut être même éternel. Hein. C'est le temps ne compte pas en art. L'argent compte pas, le temps compte pas. C'est vrai que on s'affranchit de beaucoup de choses en pratiquant de l'art. Et en fait, on s'arrête quand on est satisfait de ce qu'on a produit ou qu'on est arrivé à réaliser la vision qu'on avait dans la tête. En tout cas, oui, le temps n'a rien à faire là-dedans. Et d'ailleurs, Auguste Renoir, qui est mort super vieux, il disait que c'était seulement maintenant qu'il commençait aussi à s'amuser. Et du coup, c'est vrai que la pratique, une pratique intensive pendant de nombreuses années finit par provoquer une vraie jouissance picturale et du trait. Parce que les choses qui étaient difficiles dans les œuvres de jeunesse sont bien plus faciles par la suite. Mais c'est vrai que le temps est une valeur de laquelle on parle peu quand on parle d'œuvres d'art. On parle pour ce qui est de la peinture très célèbre, de prix. Mais c'est vrai qu'on s'intéresse assez peu au nombre d'années qu'il a fallu au maître pour réaliser son chef-d'œuvre.
Là, l'œuvre, c'est l'Angélus. Et la petite anecdote, c'est qu'en 1932, un déséquilibré mental veut détruire la peinture la plus célèbre du Louvre. Il hésite entre la Joconde de Léonard de Vinci et le pèlerinage à Cythère d'Antoine Watteau. Antoine Watteau. Avant de se ruer sur l'œuvre de Jean-François Millet et lacérer l'Angélus. Comment cette petite toile est-elle devenue si connue ?
Combien elle mesure, cette petite toile, Malo ?
Alors, 0,555 x 0,660 mètres.
Ah oui, non mais alors c'est tout petit, quoi.
Vous êtes bien sur Radio Diwa.
C'est vrai que c'est vraiment pas grand. Après, il se dégage vraiment une forte intensité. Donc la France éternelle, ben, on la comprend, parce que bien que la paysannerie soit pas uniquement française, mais l'Angélus, oui, c'est pour marquer la quotidienneté des heures des jours, les jours après les jours, avec les rituels des heures de la prière. Là, on dirait en plus que le paysan et la paysanne, ils sont en train de se recueillir sur leur panier de pommes de terre. Et c'est très, à la fois rude, à la fois tendre. Et puis, il y a un magnifique coucher de soleil. C'est vrai que les lumières sur la lande doucement... doucement auréolés de rose et de orange et les reflets sur les vêtements super simples, les sabots. Ouais, ça émeut. C'est vrai que c'est des images aujourd'hui presque d'un autre temps. Non pas que les agriculteurs aient changé, mais c'est vrai que les outils ont changé. Et je comprends mieux maintenant pourquoi ça a pu aussi inspirer les peintres plus proches de nous comme Picasso, parce que c'est vrai que par rapport à Vincent Van Gogh, bon, ils sont quasiment ils sont contemporains. On parle d'élan patriotique, on parle d'icônes populaires. Alors on pourrait aussi parler des déséquilibrés mentaux qui viennent dans les musées pour détruire les chefs-d'œuvre. Les chefs-d'œuvre du monde. Alors, je ne sais pas qu'est-ce que...
Enfin, tu en as entendu parler, de nombreux ou pas tant ?
Ben non, pas tant. Par rapport au nombre de gens qui viennent admirer les œuvres dans les musées, finalement, il y a très peu de coups de couteau. Non, j'ai plutôt entendu parler de Banksy qui a rajouté des œuvres à lui dans les musées. Ou peut-être que ce n'est pas lui, mais en tout cas, il y a un artiste qui a rajouté une œuvre à lui dans un musée. Donc ça, je trouve ça vraiment évidemment sympa et intelligent. J'en connais aussi qui ont acheté des œuvres d'art, des célébrités qui ont acheté des œuvres d'art pour repeindre des trucs chez elles. Alors, je ne sais pas si c'est des anecdotes ou si c'est vrai.
Fake news or true?
En tout cas, s'attaquer à l'art quand il est mis dans un musée, c'est vraiment ridicule parce que c'est pour le plus grand nombre. C'est l'art justement qu'on vous propose, qu'on vous donne à manger pour vous tirer vers le haut et vous donner une base de la culture. Donc les gens n'ont pas... Enfin, quand tu vas dans un musée, même si les entrées des musées sont de plus en plus chères, malheureusement, et que l'accès à la culture est finalement un luxe, les œuvres qui sont dans les musées, tu ne les payes pas. Et heureusement, parce que sinon, tu ne pourrais pas. Donc, c'est vraiment dommage d'aller dégrader des œuvres qui sont tout publiques.
Est-ce que je peux te poser une question par rapport à ça ? Tu as dû en entendre parler à un moment, il me semble que c'était à Londres, justement, et il y a des jeunes qui, pour faire comprendre leur colère par rapport... au fait qu'il n'y a rien qui avance sur l'écologie et sur le réchauffement climatique et qu'on est beaucoup de jeunes aujourd'hui à s'inquiéter de notre avenir, qui avaient justement abîmé une toile dans un musée, une œuvre qui apparemment était une œuvre, grande œuvre d'art.
Une œuvre chère, très chère.
Ouais. Et que voilà, ils l'ont aspergée de sauce tomate et qu'ils ont trouvé que ça en mode revendication.
Ah, oui, j'en ai entendu parler, oui, mais ça c'est pas grave parce que la sauce tomate ça se nettoie. Hein. Les peintures à l'huile, ça se nettoie. Une peinture elle est toujours nettoyable. Non, mais si c'est vrai, surtout celles des maîtres anciennes qui sont avec des peintures à l'huile qui sont vernies. Et qui sont dans les musées et qui sont du coup entretenus et à des bons taux d'humidité et de température. Du coup, non, je ne suis pas inquiète pour la sauce tomate. C'est plus les gens qui les lardent de coups de couteau. Ça serait plutôt ça, le vrai dégât. Ça serait d'effectivement passer une lame dans une œuvre. Parce que là, je ne sais pas trop comment ça peut se réparer. Pardon, je m'écarte du micro.
Ouais, c'est pénible, hein. Mais il ouais. faut
Mais en tout cas, ça marque le fait que... l'art reste, enfin je veux dire, quand on touche à l'art, du coup, on touche au cœur d'une société ou au cœur de quelqu'un. Donc c'est que ça continue à être important dans notre histoire.
Ah, des radios, ben ça, il y en a. Mais des commerdiwa, il n'y en a pas.
Si je te dis Léon Gambetta, ça te parle ?
Ben ouais, pour les avenues, la République, voilà.
Est-ce que tu sais, enfin moi j'ai pas de culture sur ce monsieur, mais est-ce que toi tu sais un peu qui il était pour qu'on le retrouve dans toutes les rues de notre belle vieille France ?
Ben je sais pas, non, j'ai peur de dire des bêtises.
Ok, je dis juste ça parce que justement il y a un petit extrait d'un commentaire qu'il a fait sur l'œuvre de l'épisode d'aujourd'hui,
ah,
d'Angélus Millier.
Vas-y, ça va nous éclairer.
La cloche a sonné le couvre-feu du travail. La scène est admirable et vise plus loin que le sujet. La peinture, ainsi comprise, cesse d'être un spectacle. Elle s'élève et prend un rôle moralisateur, éducateur. Le citoyen passe l'artiste. Léon Gambetta.
J'ai des amours, le diwa, la radio. J'ai des amours, diwa, oui, c'est toi.
À ce moment-là, la terre n'est pas fertile comme on pourrait s'y attendre. Et c'est clair qu'ils remercient pour ce qu'ils ont, mais ils aimeraient bien sans doute en avoir plus, hein, je pense. Ben, le respect pour les gens qui travaillent la terre. Le côté social aussi des différentes classes sociales, parce qu'on est en plein émergence de la grosse bourgeoisie et des sans-familles et des nouvelles familles industrielles qui vont s'enrichir à tout va jusqu'à aujourd'hui, et on les connaît. Donc ça ramène aussi à une simplicité et sûrement à une énorme fracture sociale du milieu du 19e siècle, hein. Ça c'est évident. C'est pour ça que la cause paysanne, embrasser la cause paysanne, c'est comme on parlait de politique la dernière fois à propos de l'enterrement d'Ornans, c'est quelque part en choisissant ce thème et en y passant 2 ans à faire un couple de paysans autour d'un panier de patates, on veut servir la cause de la paysannerie française et de la nourriture, peut-être aussi simplement, qui va arriver jusqu'à nos tables dans les villes.
L'ambiance est au recueillement.
Ouais, l'ambiance est vraiment au recueillement pour vraiment un petit panier de patates. C'est ça que je trouve qui est assez triste. Et du coup, ça me fait penser aussi aux mangeurs de pommes de terre.
On observe bien, du coup, en fait, ce jeune couple de paysans, ils sont en train de prier.
Ouais, ils sont en train de prier, ouais, c'est ce qu'on disait. Ils remercient pour... Ils remercient la terre-mère pour pas grand-chose, mais ça va leur faire leur repas. Et du coup, quand on compare à aujourd'hui, c'est vrai que dans le monde ultra monoculturel dans lequel nous plonge l'agriculture, ça fait presque rêver, hein, ça, c'est sûr. C'est le monde où il faudrait revenir. La simplicité, les outils à main, et puis du courage, beaucoup de courage, beaucoup d'ardeur, et sûrement, oui, la foi. Alors, en quoi moralisateur pour justement cette bénédiction du panier de pommes de terre ? Alors, apparemment, cette œuvre est partie aux États-Unis et elle a fini par être léguée au musée du Louvre. Elle est très appréciée dans le patrimoine français. Et il y a une reproduction, c'est peut-être aussi pour ça qu'elle est très célèbre, parce qu'il y a une reproduction, comme certains tableaux de Renoir qui ont fait le calendrier des postes, des reproductions pour que les Français en aient tous un chez eux, des reproductions à pas cher. Donc c'est devenu en fait une icône populaire. C'est pour ça que ce tableau est connu dans toutes les chaumières.
C'était une presque belle conclusion.
Oui, très belle conclusion pour l'Angélus.
Vous êtes bien sur Radio Diwa.
Artichaut.
C'est l'artichaut. Pourquoi c'est connu ?
L'émission que vous retrouvez sur le 101.7. Et si on continuait sur une autre œuvre d'art pour essayer de comprendre pourquoi elle est connue ?
Oh oui. L'artichaut, j'adore. Parlons d'art. Je suis chaude.
Alors, de quoi parlons-nous ? De qui parlons-nous ?
Ben, je sais pas, tu choisis. Alors ?
Eh ben, l'absinthe de Degast était chaud. Ouais. Avec un petit peu d'absinthe, ouais, on remonte la chaleur sur les ondes de Air Diwa. Ah, parlons-en. Ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire ?
Alors, ce que je peux vous dire, c'est que j'adore Edgar Degas, bien évidemment. L'absinthe, bon, bah, à l'époque où Degas peint, bien sûr, l'absinthe est autorisée comme énormément d'autres drogues qui ont été interdites pendant les années 30 et voilà, jusqu'à nos jours. Mais là, on a la chance d'être vraiment dans un large éventail de toxicomanie, toxicologie possible, et même avec des produits qui arrivent d'Extrême-Orient. Donc là, il s'agit d'un tableau qui s'appelle « Dans un café », dit aussi l'absinthe. C'est un tableau qui date plus de la fin du 19e, donc 1873 pour être exact, et qui est une scène de bistrot où il y a un couple Une pauvre dame qui a l'air d'une tristesse et d'une nostalgie vraiment triste,
flagrante
et vraiment dans des gris et vraiment éteinte, devant un verre d'absinthe, et son mari qui fume la pipe à côté. Donc je pense que c'est un détail d'un tableau plus grand. Lui, il a l'air clairement tronqué. Et la scène donc cadre très bien cet alcoolique à l'absinthe. Donc
très réaliste,
c'est un tableau. Ouais, c'est très réaliste. Et clairement, c'est il le dit, campagne de prévention contre l'alcoolisme, contre les ravages de l'absinthe. Et là, particulièrement donc chez la femme, puisque c'est elle qu'il a choisi de représenter avec une lassitude dans le regard. Enfin, franchement, elle fait peur, elle est triste. Elle n'a même pas commencé son verre, à moins que ce soit déjà le troisième. Ça ne s'est pas dit. Et Degas, bien sûr, là, il n'en fait pas l'apologie. Il en fait vraiment un tableau dramatique qui indique qu'il faut être vraiment prudent avec ça. Mais il était lui-même un très bon consommateur d'absinthe. Il l'était tous. Hein. La fée verte donnait de l'inspiration aux artistes comme l'opium ou la coca, la cocaïne ou d'autres choses qu'on pouvait trouver à cette époque. Donc la fée verte rend les gens fous, mais avant de les rendre fous, elle leur donne des visions et des idées pas possibles. Alors moi, j'ai jamais trop bu d'absinthe, donc toi, t'en as bu, Malo, d'absinthe ?
Non, pas tant. J'ai trempé les lèvres et encore, je suis même pas sûre. Donc ça me parle, mais
enfin, on ne sait pas. Du coup, moi, je ne sais pas clairement trop les effets de vision que ça fait. Autant je pourrais parler d'autres genres de drogues, mais ça, c'est vrai que moi, j'aime pas trop l'alcool. Du coup, ça. Mais donc, ce tableau, moi, j'adore. J'adore la facture. J'adore comment, en très peu de traits, on arrive à rendre un vrai décor et à donner une ambiance de bistrot avec le petit rideau en dentelle, le papier peint. Le marbre des tables qui est à peine dessiné, mais on voit que c'est des tables en marbre. La tenue de la dame et ses cheveux un peu roux et son grand chapeau qui la fait plus passer pour un peu une blanchisseuse en dimanché qui sort au bar. Et c'est très, très réaliste. Et c'est vrai que ce qu'on a envie de se dire, ben, c'est « Ouah la vache, quelle putain de vie !» quoi. C'est ça.
Justement, il y a une citation à propos de cette œuvre de George Moore qui dit « Ciel, quel putain ! Une vie de paresse et de vice gravée sur son visage. On peut y lire toute son existence. L'histoire n'est pas belle, mais c'est une leçon. »
C'est ça, exactement. Ben, l'histoire n'est pas belle parce que dans ce Paris du 19e siècle, les pauvres gens sont vraiment pas aidés. Hein. Déjà, ça grouille. Ils sont très nombreux sur un tout petit territoire. Les femmes sont toutes ou des prostituées ou des blanchisseuses. Enfin, si elles sont pas nées dans les belles maisons, dans les bonnes familles, ben elles ont pas tellement de choix de destin de vie, malheureusement. Hein. Et elles s'usent à toute vitesse. Donc, on les affraîche quand elles sont vraiment très jeunes et toutes petites. Et puis, voilà, très rapidement, une femme de 30 ans ou de 40 ans, elle est déjà usée, elle a déjà eu plein de grossesses ou plein d'avortements avec des faiseuses d'anges et des aiguilles à tricoter. Souvent, il y a énormément de violence, il y a énormément aussi de pollution. Enfin, les conditions de vie sont bien pires que celles qu'on connaît aujourd'hui. Il faut aller chercher le charbon au seau, il faut aller chercher l'eau au seau. Et il faut avoir plusieurs boulots. Donc, la petite Parisienne de cette époque-là n'est pas tout sourire, n'est pas toute toilette au vent et bijoux à friolant. Non, 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 on a tout le Paris populaire, le Paris ouvrier, le Paris des labeurs, comme on a vu la campagne tout à l'heure avec Millet. Bah, là, on a le désespoir à la ville, quoi. Et en fait, du coup, les ambiances babylonesques des grosses villes de l'époque l'étaient déjà. Et on se demande pourquoi tous ces gens ont déserté les campagnes pour se rendre à la ville où clairement les conditions de vie et de travail sont peut-être pas pire, mais en tout cas sûrement pas meilleur, quoi.
Alors, on a évoqué le réalisme frappant de cette œuvre. Est-ce que, par hasard, tu connais les peintres académiques Walter Crane et Sir William Black Richmond ?
Non.
Ok, parce que du coup, la toile, elle a suscité également des discussions contrastées sur la modernité et le réalisme en art. Et du coup, ces peintres académiques que je viens de citer se demandent notamment si cette vision de la réalité appartient encore aux beaux-arts ou si elle relève de la sociologie.
Ben ça dérange pas du tout, hein.
Justement, je trouvais ça cool de l'évoquer.
Ben oui, non, il faut pas cloisonner. Moi, je déteste quand on cloisonne les choses et particulièrement l'art. Donc, j'aime pas, par exemple, ces grands courants qui sont donnés. Les noms qui sont donnés aux courants d'art, ce qui est déjà en plus un peu bête, les courants d'art comme les courants d'air. Non, moi je crois surtout dans la densité de l'œuvre du peintre, ce que le peintre a voulu donner. Donc là, on est aussi plus. Bon, je ne connais pas les peintres que tu as cités, mais par contre, il parle de Zola et de l'assommoir de Zola. Donc ça, par contre, oui, je connais beaucoup mieux, du coup, cette littérature que peut-être toute la peinture de cette époque. Mais clairement, il y a une vue sociale, c'est-à-dire que ces peintures qui arrivent dans les beaux quartiers, ces peintures des pauvres gens de la rue, qui arrivent dans les salons, ou que vont visiter les bourgeois pour acheter une œuvre ou deux, ben oui, c'est social. C'est le choix du thème qui fait la nature de l'œuvre. Donc si on décide de faire des bourgeois, on fait de la peinture bourgeoise. Si on décide de faire des gens du peuple, on fait de la peinture ouvrière, de la peinture pour le peuple. C'est les mettre en avant, c'est en faire des stars. Et c'est aussi essayer de vendre leur cause aux plus riches, les bourgeois, pour faire comprendre aux bourgeois, celui qui a la chance d'avoir peut-être acquis cette œuvre des mains de Degas, le bourgeois riche qui a flashé sur cette buveuse d'absinthe, ben clairement c'est un socialiste, parce que s'il a été ému par cette bonne femme qui est clairement pas de son milieu, c'est que ben il a du cœur et il a aussi du zézé artistique, parce que clairement c'est ces œuvres-là parce qu'il ne s'agit pas d'une caricature, la femme est belle, c'est-à-dire il ne l'a pas rendue de manière excessivement moche, il l'a rendue telle qu'il l'a vue, il a peint ce qu'il a vu.
Puis elle est même belle, c'est juste que c'est toujours plus beau une femme qui est heureuse, quoi. Mais sinon, c'est un beau portrait, quoi. Si ce n'est qu'il reflète le malheur et la mélancolie, mais...
Ouais, puis il y a ce côté aussi très léché pour le visage et les yeux et beaucoup plus flouté pour le décor extérieur, ce qui fait que vraiment l'œil, tac, va direct sur le visage de cette dame.
Qui a l'air de remettre toute sa pauvre vie en question. Et alors du coup, le personnage qui est à côté, qui est, comme tu le mentionnais, probablement son mari, son époux, il a l'air d'être complètement désintéressé. À l'affût d'autres regards, d'observer peut-être ce que la vie a à offrir dehors.
Ouais, lui, il regarde ce qui se passe à l'extérieur et elle s'intéresse à ce qui se passe à l'intérieur d'elle. Et elle est dans son monde et lui, il est en train de... Effectivement, d'observer, il a la vue sur la salle du bistrot. Après, moi, j'adore toutes les scènes de bistrot parisien de ces années-là. Quel que soit le peintre, je les adore toutes. Parce que j'adore cette époque. La Belle Époque, d'ailleurs, en plus, voilà, c'est comme ça qu'elle s'appelle. Moi, j'aime La Belle Époque, les années folles. Et maintenant, on est dans les belles années folles. La Belle Époque des années folles, c'est maintenant. Mais j'aime la qualité, justement, de ce décor. C'est pour moi, il y a une espèce de summum du décor qui arrive à ce moment-là et qui va disparaître avec des artisans, des meubles, enfin de l'artisanat de très 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 haut niveau, marqueterie, etc. Et puis après, il y a aussi la culture du zinc ou la culture du marbre qu'on voit sur les tables de toilette ou qu'on retrouve sur les tables de bistrot parisiens. Bon voilà, c'est aussi un signe, on sait où on se trouve. En regardant le tableau, on sait clairement qu'on est à Paris en 1870. Il n'y a pas de... On ne peut pas se tromper, quoi. Peindre son temps, peindre les malheurs de son temps, les petits bonheurs quotidiens et aussi les grands malheurs de son temps. Et quand on voit les ravages de l'alcool aujourd'hui et qu'on sait que déjà, dès ces années-là, il y avait déjà péril en la demeure et que l'alcool se vend de manière mensongère, puisqu'on dit à boire avec modération, mais qu'en fait, dès qu'on boit de l'alcool, on n'en a plus de la modération, puisque l'alcool annihile le sentiment de modération. Donc, bon, ben voilà.
Ils nous ont menti.
Ils nous ont menti, ouais, sur toute la ligne. Bien sûr, ils nous ont menti.
Bouh !
Enfin, il faut quand même rappeler que je le lis là, l'absinthe est une liqueur qui titre à 70 degrés d'alcool, hein. Donc là, je crois même pas qu'on pourrait en boire aujourd'hui de ce truc-là, quoi. On s'en servirait pour nettoyer les toilettes, je pense, hein. Mais bon.
Ouais, c'est assez violent. Quand t'as un quotidien bercé par l'absinthe, je pense que forcément tu finis bancal.
Ben c'est sûr. Et puis une petite dame comme ça, toute maigrichonne, qui doit peser 45 kilos toute mouillée, un grand verre de 70 degrés, ça doit bien la récurer de l'intérieur. Voilà, enfin bon, on rigole, mais voilà, faites attention, buvez avec modération. Voilà.
C'était le petit conseil artistique de l'artichaut. Buvez toujours avec modération, soyez conscients de vos limites.
Ou apprenez-les, mais il faut en tenir compte, quoi, c'est ça qui compte. Et ensuite, je sais que l'absinthe, on peut en trouver quand même. Enfin, il y en a au Luxembourg, il doit y en avoir...
T'as envie d'essayer ?
Non, je ne sais pas que j'ai envie d'essayer.
On va se faire une petite absinthe.
Sûrement que ces ivresses-là existent encore. La fée verte n'est pas morte. Et moi je suis prête à essayer un petit peu l'absinthe avec un tableau prêt et puis des pinceaux déjà trempés dans les couleurs et puis voir si j'ai des visions ou des trucs.
Comme ça, peut-être que la prochaine fois, tu nous parleras de ton œuvre d'art sous absinthe.
Voilà, et comme ça, j'en apprendrai davantage encore. Et décidément, comme cette émission me tire vers le haut, c'est incroyable. Merci Malo, on a bien fait de le faire.
Est-ce que pour cette émission, tu aurais envie de choisir une petite chanson pour la fin, quoi, pas laisser nos auditeurs comme ça, après les avoir accompagnés pendant une bonne demi-heure, je me disais qu'on pouvait les laisser sur un petit air.
Alors, un petit air. Eh ben justement, pourquoi pas un petit air de R. Tu connais ce petit groupe de pop, lounge française des années 80-90, par là ?
Non, je ne le crois pas.
Donc, AIR comme R, et j'aime beaucoup.
êtes bien sur Radio Diwa.